VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 5 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, les combats ont repris pendant le week-end entre forces de sécurité et partisans du chef Kamuina Nsapu dans le Kasaï.
Une conférence sur la paix et la sécurité se tiendra aujourd'hui et demain à Dakar, au Sénégal.
En Libye, les forces loyalistes se disent sur le point de reconquérir Sirte, que contrôlent des djihadistes du groupe État islamique.
En Italie, démission du chef du gouvernement Matteo Renzi.
Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution demandant une trêve d'au moins 7 jours à Alep.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, reprise pendant le week-end des violents affrontements qui ont éclaté mardi à Chikapa, dans le centre du pays, entre forces de sécurité et partisans d'un chef traditionnel tué au mois d'août. Selon l'AFP, 4 miliciens, partisans du chef Kamuina Nsapu, tués par les forces de sécurité, ont notamment trouvé la mort samedi soir au cours de ces violences dans la capitale de la province du Kasaï.
Toujours en RDC, le journaliste Tcheke Bukasa a été relâché quelques heures après son interpellation hier à Kinshasa. Radio Okapi, qui cite la direction du journal Le Phare, où travaille Bukasa, rappelle qu'il avait été arrêté par des agents en tenue civil se réclamant de l'Agence nationale de renseignement. Les membres de la famille du journaliste affirment que leur fils a reçu une autre convocation.
Oui, et il devra se présenter ce lundi 5 décembre au bureau de la 14e région militaire du camp Kokolo pour des raisons non encore élucidées. La même source, dit Radio Okapi, signale que les téléphones portables de Tcheke Bukasa ont été retenus par les agents des services de sécurité. Il y a un mois, l'ONG Journaliste en danger avait dénoncé la montée des attaques ciblées contre la presse en RDC.
Une conférence sur la paix et la sécurité se tiendra aujourd'hui et demain à Dakar, au Sénégal. Elle doit s'achever par une rencontre entre plusieurs chefs d'État représentant diverses régions du continent. Gabi Gorcy l'adjoint, le journaliste et spécialiste des questions de défense et de sécurité, Ibrahima Khalil Ndiaye.
Fondamentalement, ce but est de mettre en contact des experts, des professionnels, des acteurs du monde de la sécurité, de la diplomatie, du monde politique et des députés pour quand même qu'ils puissent en débattre, puissent poser des problèmes et l'amorcer sous différents angles. C'est ça en tout cas l'objectif qui est visé. Maintenant, entre ce qui est dit et ce qui se fait réellement, il y a un coût de décalage et on va avoir une participation de l'ordre de 500 personnes. Le nombre a diminué par rapport à la dernière édition. Il y aura 9 plénières dans des 3 blocs différents où on parlera de différentes choses, du terrorisme à l'accès aux ressources comme l'eau, les minerais ou autres qui sont aujourd'hui des sources de conflit. Et essayer quand même de mettre en branle des recommandations qui seront soumises à la table ronde du chef d'État qui tiendra le mardi après-midi.
Combien de chefs d'État doivent prendre part mardi à la séance finale?
Maintenant, je ne sais pas combien de chefs d'État seront réellement présents, puisque ça aussi, il y a une confusion générale. Ils n'ont pas communiqué et je n'ai pas encore eu connaissance des avions qui viennent de débarquer à Dakar transportant des chefs d'État.
Le journaliste sénégalais Ibrahima Khalil Ndiaye, joint à Dakar.
Une dizaine de femmes et d'enfants ont quitté le dernier pâté de maison aux mains des djihadistes du groupe État islamique à Sirte. C'est ce qu'ont annoncé les forces libyennes, qui se disent sur le point d'achever la reconquête de la ville. L'offensive, soutenue par l'aviation américaine et menée par les forces fidèles au gouvernement d'Union nationale, formées sous l'égide de l'ONU, qui sont composées en grande partie de brigades de Misrata, mais la présence de civils les ralentit.
Le Mali enterre ce lundi le comédien Tenemane Sanogo, personnage populaire du monde culturel malien, décédé subitement hier matin. Comme le soulignent les médias locaux et internationaux, avec le départ de Tenemane Sanogo, le pays vient de perdre un de ses comédiens les plus célèbres. Gabi Dorsil.
Pour la ministre malienne de la Culture, Madame Diaye Ramatoulaye Diallo, Sanogo était un comédien et un sensibilisateur hors pair. Cheikh Omar Sissoko, ex-ministre de la Culture et actuel secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, a dit à l'AFP que Tanaman Sanogo était un des piliers des sketchs citoyens, petits films de sensibilisation sur différents thèmes, dont la lutte contre le sida ou la défense de l'environnement. Le comédien Habib Dembélé, qui lui était très proche, a parlé d'une perte incommensurable. L'acteur, dont la popularité dépassait les frontières maliennes, a travaillé sans souci apparent jusqu'à samedi, bien que diabétique. Une tournée de son groupe Niogolon dans l'intérieur du Mali a été annulée. Tanaman Sanogo avait été fait chevalier de l'Ordre national du Mali en 1999.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Italie, le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a annoncé tôt ce matin sa démission après le rejet massif de sa réforme constitutionnelle dans un référendum. « Mon expérience de chef de gouvernement s'arrête là », a sobrement résumé Matteo Renzi, 41 ans. « J'ai perdu, j'en prends toute la responsabilité », a-t-il ajouté en direct sur les chaînes de télévision italiennes.
En Autriche, la défaite du candidat d'extrême droite à la présidentielle autrichienne a rassuré dans les capitales européennes, soulagé la fragile coalition centriste au pouvoir à Vienne et contrarié les ambitions du FPÖ qui se projette maintenant vers les législatives. Européens convaincus qui jugeaient ce scrutin décisif pour l'avenir de l'Autriche dans l'Union européenne, Alexander Van der Bellen est crédité d'une nette victoire avec 53,3% des voix, selon les projections, contre 46,7% à Norbert Hofer, 45 ans, vice-président du Parlement et cadre du Parti de la Liberté FPÖ.
Donald Trump fait encore froncer les sourcils, cette fois-ci à cause d'une conversation téléphonique avec la présidente de Taïwan, en raison du fait que les États-Unis ne reconnaissent officiellement qu'une seule Chine, celle de Pékin. Washington n'entretient en effet aucun lien diplomatique avec Taïwan depuis 1979, Jean-Roger Bion.
Les médias n'ont pas attendu longtemps pour souligner la portée diplomatiquement dangereuse d'une telle démarche, faisant remarquer que depuis des décennies, le gouvernement américain ne reconnaît que la Chine communiste. L'équipe de Donald Trump a pourtant minimisé l'importance de la conversation téléphonique du président élu avec la chef d'État taïwanaise Tsai Ing-wen. C'était un appel de courtoisie, a déclaré le vice-président élu Mike Pence hier au programme télévisé ABC This Week. C'est un peu mystérieux de voir que le président Obama puisse rencontrer un dictateur assassin à Cuba l'année dernière et être salué comme un héros pour l'avoir fait. Et quand le président élu Donald Trump reçoit un appel de courtoisie du dirigeant démocratiquement élu de Taïwan, cela donne lieu à une controverse. Mike Pence admet néanmoins que Donald Trump a l'intention d'adopter une position plus ferme envers la Chine sur le commerce et d'autres questions. Il va se battre pour les emplois des Américains et nous allons cesser de perdre face à la Chine et à d'autres pays, a déclaré le vice-président élu. Jusqu'à présent, la réaction chinoise à l'entretien téléphonique entre Trump et la présidente de Taïwan a été plutôt modérée. C'était juste un coup médiatique de Taïwan, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Cela ne changera pas le fondement international de la politique d'une seule Chine que les États-Unis ont respecté depuis des années, a-t-il ajouté. Bien qu'il n'y ait pas de relations diplomatiques entre les États-Unis et Taïwan, les deux ont coopéré sur le plan militaire pendant des décennies. Le grand mystère, c'est ce que pourrait faire Donald Trump une fois aux commandes à la Maison-Blanche.
En Syrie, les forces pro-gouvernementales se rapprochent de leur objectif de reprendre le contrôle de la totalité de la ville d'Alep. Devant la situation désastreuse des civils pris dans les combats, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution demandant une trêve d'au moins 7 jours à Alep. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Nanit Talani.
Dans le cadre de l'exportation du pipeline Tchad-Cameroun, les statistiques du comité de pilotage renseignent que 35,21 millions de barils de pétrole ont été enlevés au terminal de Komé-Kribi entre janvier et octobre 2016, contre 38,56 millions de barils dans la même période en 2015. Ces quantités ont généré pour le Cameroun un droit de transit de 26,87 milliards de francs CFA contre 29,48 milliards en 2015. En Côte d'Ivoire, 520 millions de francs CFA, c'est le coût du programme triennal 2017-2019 de Niakara-Madougou dans le centre du pays. Ce programme va concerner la réalisation d'infrastructures d'éducation, la construction d'un centre de groupage du vivrier, son étal en béton au marché de Tafiré, une retenue d'eau pour les cultures maraîchères, un parc à bétail, une gare routière et des centres de loisirs et de sport. Il est également prévu l'acquisition de deux ambulances type tricycle pour les centres de santé de Tafiré et de Ngolodougou. Enfin, en Tunisie, le yuan, la devise chinoise, fait son entrée parmi les réserves de change de la Banque centrale. Dorénavant, les entreprises chinoises pourront payer directement en yuan, ce qui devrait baisser le prix des produits tunisiens. Auparavant, les partenaires asiatiques devaient s'acquitter de leurs factures en dollars majorées d'une prime de risque due à la forte volatilité des taux de change. Cette nouvelle devrait booster les exportations tunisiennes et l'arrivée des touristes chinois qui pourront utiliser leur propre monnaie.
À présent, notre page sport avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, CAN féminine et le Nigeria est sacré champion devant le Cameroun.
Oui, c'était attendu. Les Super Falcons ont dominé les Lions du Cameroun 1-0. Invaincus durant le tournoi, les Camerounaises n'ont pas pu tenir devant les Nigérianes favorites de la compétition et qui signent au passage leur 10e CAN. Le Ghana s'est adjugé la 3e place la veille en battant l'Afrique du Sud sur la marque de 1-0. Et puis toujours chez les femmes, mondial des moins de 20 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la France n'a pas résisté devant la Corée du Sud, championne du monde sur le score de 3-1.
Chez les hommes cette fois, le Sénégal est sorti vainqueur du tournoi de l'UEMOA qui s'est déroulé au Togo.
Victoire 1-0 en finale face au Mali, but d'Aliou Badje à 10 minutes de la fin du match. Les Lions de la Teranga ont validé leur 3e succès dans ce tournoi réservé aux joueurs locaux. Joseph Koto, l'entraîneur sénégalais heureux, a reconnu que ce sacre était la force de la jeunesse que son équipe a eue tout au long du tournoi.
On sait que nos frères maliens, c'est des gens très orgueilleux qui aiment se battre et qu'ils allaient se battre jusqu'au bout. Mais nous, on avait un argument, c'est la jeunesse de l'équipe. Parce que si vous voyez entraîner des équipes, notre équipe était plus jeune. Bon, c'est vrai que dans un match de football, toutes les deux équipes avaient des occasions de but. Aussi bien nous que les Maliens, on a gagné ce trophée. On remercie tout le monde. On est très fiers et très contents du public togolais qui a soutenu ces équipes, qui a été là malgré l'élimination précaire du Togo. Les gens sont venus répondre à cette finale-là.
Côté malien, cela devient une malédiction pour Djibril Dramé, entraîneur des Aigles. Il faut maintenant tirer les enseignements. La cause de ces échecs à ce niveau de la compétition. Il est au micro de Kyle Lawson.
Je pense qu'ici, aujourd'hui, on avait un bon groupe. Et les deux équipes ont vraiment joué au football. Ça a été un match technique et tactique. Et les deux équipes étaient bien en place. Mais le match a basculé suite à une situation standard qui a souri aux Sénégalais. Ça aussi, ça fait partie du football. Et encore mieux, on pouvait égaliser parce qu'on a eu cette opportunité de pouvoir scorer à la toute dernière minute. Il s'agit maintenant de tirer, maintenant de faire un rétrospectif, voir qu'est-ce qui fait que le Mali dans le tournoi et moi, chaque fois arrivé en finale, on donne bonne mine, on fait bonne prestation, on fait un bon jeu. Arrivé en finale, on s'incline souvent par tir au but, souvent par des situations comme ça.
L'actualité sportive africaine est marquée également par le handball avec les quarts de finale de la CAN féminine en Angola.
Effectivement Idrissa, et ces quarts de finale n'ont pas connu de grosses surprises au regard des résultats depuis le début de la compétition. La Tunisie, tenante du titre, a facilement dominé la Côte d'Ivoire 38-26. Le match Congo-Cameroun, le duel d'Afrique centrale, a tourné à l'avantage des Camerounaises, vainqueur 32-27. L'Afrique de l'Ouest a eu également son duel, le Sénégal face à la Guinée. Là aussi, pas de surprise, nette victoire des Sénégalaises, 27-15. Et puis le pays hôte sera également présent dans le dernier carré. Les Angolaises se sont naturellement imposées devant l'Algérie, 42-19 en demi-finale. Aujourd'hui, on aura donc Sénégal-Tunisie et Angola-Cameroun.
Du basketball Élysée avec la Coupe d'Afrique des clubs champions chez les dames et le trophée pour l'interclub de Luanda.
Oui, les Angolaises ont eu raison des Mozambicaines de Ferroviário de Maputo, 67-49. Une fois de plus, le club de Maputo n'a pas pu faire la différence devant l'interclub. Et puis, on reste dans cette discipline et avec vous, Idrissa. Les résultats de la nuit en NBA.
Orlando bat Détroit, 98-92. Oklahoma City a eu raison de New Orleans, 101-92. Sacramento est battu par les New York Knicks, 106-98. Et Los Angeles Clippers succombe à Indiana, 98-86.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Afrique, on continue de commenter la décision de Yahya Jammé de reconnaître sa défaite à la présidentielle en Gambie. Le départ de ce président au pouvoir depuis 22 ans va peut-être aussi changer la donne dans le conflit casamancé qui oppose l'État sénégalais aux rebelles indépendantistes de cette région du Sud, coincé entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Nicolas Pineau a joint Amadou Sylla, président de SOS Casamance.
Ça a surpris quand même tous les observateurs. Personne ne s'y attendait, mais je pense qu'il faut en tout cas saluer la sagesse du président Yahya Jammé. Il faut reconnaître quand même la grandeur de l'homme. C'est vraiment difficile dans le contexte africain qu'un président, avec tout ce qu'on l'a caricaturé il y a ces années, avec tout ce qu'on a en tout cas dit sur lui, que subitement les gens le voient renoncer au pouvoir parce que tout simplement il a été battu sur des élections que lui-même a organisées et qu'il reconnaît officiellement sa défaite. Il tend la main effectivement à son successeur. Moi je crois qu'il faut tirer des enseignements très positifs dans ce sens-là, ne serait-ce que pour l'intérêt de la stabilité de la Gambie, pour l'intérêt des Gambiens, regarder plus en avant, préserver la paix sociale.
Est-ce que le départ de Yahya Jammé va permettre des avancées dans le dossier casamançais au Sénégal ?
Oui, absolument, parce que Yahya Jammé, quoi qu'on dise, c'est un acteur clé en tant que président de la République gambienne, parce que la Gambie, c'est un pays qui partage le Sénégal en deux, qui fait que la Casamance, effectivement, n'est pas tout à fait reliée dans l'espace territorial, dans l'espace national. Donc, de ce point de vue-là, je crois que quelqu'un comme Yahya Jammé, qui n'a certainement pas facilité le dialogue entre le pouvoir et les gens du MFDC, où il y a un problème de communication réelle qui s'est posé. Et je crois que son départ, ça ouvre une nouvelle page. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a un vrai espoir, effectivement, qu'on peut attendre du nouveau régime gambien et aussi du régime sénégalais, parce que le dialogue, ça s'est fait en deux. Et il faut de la hauteur, en tout cas pour les deux parties, pour l'ensemble des acteurs, pour arriver effectivement vers une solution beaucoup plus attendue et beaucoup plus constructive.
La Gambie qui a souvent été accusée de servir de base arrière au MFDC, le mouvement rebelle casamancé.
Le Sadio a toujours retrouvé effectivement refuge en Gambie pour la simple et bonne raison que Salif Sadio est attaché à la Gambie, ben, il ne pose pas une grande difficulté. Mais ça aussi, il faut voir les relations politiques entre le Sénégal et la Gambie. Autant le Sénégal accusera la Gambie d'accueillir effectivement les rebelles, de les abriter sur son territoire, autant les Gambiens aussi diront, voilà, vous abritez des opposants qui veulent déstabiliser notre pays, qui veulent déstabiliser notre démocratie. Donc, en fait, c'est des rapports un peu en dents de scie. Quand on connaît que la Gambie et le Sénégal, c'est un même peuple, c'est les mêmes cultures qui est importante, qui doit être constante dans les relations entre les deux pays. Ça doit être vraiment le respect, la construction d'un dialogue dans l'intérêt des deux peuples, à savoir le peuple gambien et le peuple sénégalais, qui ne font que la Sénégambie, en tout cas un même peuple, une culture, une même civilisation.
Amadou Sylla, président de SOS Casamance.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Au Mali, 48 heures après son démarrage à Sikasso, le procès Amadou Aya Sanogo n'est pas entré dans le vif du sujet. Et cela à cause des incompréhensions entre les organisateurs et les avocats de la défense. Ces derniers refusent d'entrer dans la salle d'audience sans leur téléphone portable. Pour certaines personnes qui participent à ce procès, toutes ces actions ne sont que des tentatives pour faire reporter le procès. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Nous empêcher d'avoir accès à la salle d'audience avec nos téléphones portables est une entorse à la loi. C'est ce que dit Maître Alassane Sangaré, avocat à la défense.
Nous avons demandé qu'on puisse avoir accès à nos téléphones. Puisqu'on est à Sikasso aujourd'hui, on a quitté nos cabinets, on a quitté nos familles, qu'on ne puisse pas accéder à cela. Dans ces téléphones, ce n'est pas des téléphones simples, c'est des smartphones dans lesquels nous avons nos textes de loi, nous avons nos jurisprudences dedans. Dans cela-ci, nous ne pouvons pas avoir accès à cela, ça veut dire qu'on nous prive de nos instruments de travail. Or, un avocat est un homme libre et indépendant.
Les parents des victimes ne sont pas d'accord avec les multiples suspensions à longue durée. Ils attendent impatiemment les débats au fond.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le report. Voilà, parce que pour moi, tout devait être planifié, en tout cas avant le jour J qui est le 30 novembre. Donc ce n'est pas le jour J de la course qu'il faut apprendre quand même à courir.
Ce n'est pas une bonne chose parce que les gens s'entendent à ça. Il y a la population réelle qui s'entend à ça. Il y a des gens qui savent pas ce qui s'est passé réellement. Il y a eu des enlèvements de personnes assassinées. Maintenant, il faut que la cour, bien, on donne la voix aux accusés et à la partie civile d'exprimer, malgré les investigations faites par les officiers de police judiciaire.
Le mercredi 30 novembre 2016, le procès avait été suspendu. Le vendredi 2 décembre 2016, deuxième jour du procès, il n'y a pas eu de débat, faute d'avocat de la défense. Le public est pressé de voir le procès démarrer.
Je n'aime pas que ce procès soit reporté. Il faut qu'on le fasse, obligatoire. Mais je demanderai quand même au président du tribunal et aux ces gens-là qu'ils prennent leurs responsabilités.
Moi, personnellement, je me suis déplacé de Kouchala pour cette situation. Le mercredi, j'étais là, j'ai pas pu entrer. Aujourd'hui encore, je suis revenu. On nous demande que ça a été reporté encore. Vraiment, moi, je suis pas content.
Vraiment, on n'est pas du tout content. À mon avis personnel, j'ai dit à toute la population civile de ne pas venir encore. Parce que des fois, il est en train de reporter, alors que nous, on laissait nos travail pour venir assister le procès.
En tout cas, moi, je suis dessus, très fatigué. Donc, il est temps qu'on prenne nos responsabilités, qu'on fasse ça. Et les accusés, et la population, tout le monde est fatigué.
Actuellement, dans les rues de Sikasso, il y a des jeunes gens qui viennent pour soutenir Amadou Ayasanogo. En face de ceux qui pensent autrement.
Bon, moi, je suis vraiment déçu par rapport à ces reports-là. Puisque les avocats d'emblée, ils savent que c'est une défaite pour eux, quoi. Donc, c'est pour qu'ils essaient de boycotter pour que les procès n'auront pas lieu.
Aya également sont prêts à démontrer au public national, ouais, qu'international, la vérité dans cette affaire. Ouais. Et nous le soutenons. Nous avons quitté Bamako pour ça. Nous allons le soutenir jusqu'au bout. Il faut que la vérité soit dite.
Pour régler le problème des avocats de la défense, une salle a été aménagée et bien équipée avec leur accord. Et les smartphones restent interdits. Il y a aussi une deuxième salle qui a été équipée pour la presse. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Comme nous le disions dans de précédentes éditions, le Maroc a accusé la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosa Zana Dlamini Zuma, de faire obstruction à son retour au sein de cette organisation panafricaine. Rabat a reproché à Mme Zuma de poursuivre ce blocage en raison de son devoir de neutralité. En violation de son devoir de neutralité. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Addis Abeba le porte-parole de la présidente de la commission, Jacob Eno.
Nous avons suivi ces accusations dans les médias, mais ce qui est important de dire, c'est que le Royaume du Maroc a envoyé la lettre d'intention de faire partie de l'Union africaine et la présidente de la commission, en septembre cette année, a reçu cette demande et a accusé réception. Et compte tenu des règles du système de l'Union africaine, la lettre a été transmise aux différents États membres. Donc nous sommes dans le processus d'attendre les réactions, les réponses des différents membres.
Est-ce que cette procédure, s'agit-il d'une réintégration ou d'une nouvelle admission?
Il s'agit bel et bien d'une nouvelle admission, puisque le Royaume du Maroc était membre de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une autre organisation juridique qui est l'Union africaine. Donc, c'est une nouvelle admission. Donc, les 54 membres des États de l'Union africaine doivent se prononcer avant d'avoir le cas du Maroc discuté disons, figurer d'ailleurs dans l'agenda du sommet de l'Union africaine. Et puis, le reste de la décision sera discuté et puis communiqué aux intéressés.
Effectivement, le Maroc voudrait que il y ait vote dans le sommet qui va avoir lieu début 2017 à Addis Abeba. Est-ce que c'est chose faisable?
Ça, c'est ce que le Royaume du Maroc voudrait. Mais maintenant, nous parlons d'une organisation, l'Union africaine, donc c'est important de laisser le système de l'Union africaine, le procédé interne, suivre le cours. Et puis, la réponse sera communiquée officiellement au Royaume du Maroc.
Il n'y a pas de délai prévu pour ça?
Il n'y a pas de délai prévu.
Jacob Eno, porte-parole de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Kossa Zana Dlamini Zuma. En marge de la Journée internationale des personnes handicapées, observée le 3 décembre, la RDC a organisé pendant le week-end à Goma son premier championnat de basketball en fauteuil roulant. Pour rappel, l'Est de la RDC a connu ces deux dernières décennies des conflits armés qui ont fait beaucoup de morts et de blessés dans la région. Suite à ces violences, le Comité international de la Croix-Rouge soigne depuis 12 ans plus de 6600 blessés. De Goma, reportage de notre correspondant Charlie Casereca.
Le championnat s'est déroulé à l'esplanade de l'Institut supérieur de commerce de Goma. Durant 3 jours, un spectacle à couper le souffle a été présenté par 6 équipes. Dieu merci, un athlète venu de Bukavu, 17 ans, amputé de sa jambe gauche, après avoir reçu 3 balles perdues lors d'une guerre dans sa ville de Bukavu, partage ses sentiments.
Je me suis senti très à l'aise. D'ailleurs, je me considérais comme valide en jouant ce jour au basketball avec un grand public qui est venu nous assister.
François Kalonda, il est militaire, blessé de guerre en 2008, amputé aujourd'hui aussi d'une jambe. Pour lui, la joie a été de partager les mêmes terrains de jeu entre civils et militaires, tous handicapés, ces jours de la célébration de la journée dédiée aux personnes vivant avec handicap.
Je suis l'homme le plus heureux en jouant dans un groupe d'handicapés comme moi. Ici, la casquette de militaire était à côté quand je jouais avec nos amis civils.
La responsable de la Ligue paralympique au Nord Kivu, Thérèse Mabulayi, souhaite voir dans les jours à venir l'intégration et la protection spéciale des personnes vivant avec handicap.
Nous avons voulu montrer les capacités dont regorgent les personnes handicapées, juste s'ils sont capables de faire du sport qui est aussi robuste que le basket fauteuil roulant. C'est que les autres domaines de la vie, les personnes handicapées ne doivent pas être exclues. Que ce soit les militaires, que ce soit les civils, nous sommes vraiment dans le même panier, on est un peu abandonnés. Tout ça, c'est parce qu'il y a absence de cette loi qui puisse réglementer tout ce à quoi nous avons droit.
Le Comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu, qui accompagne les victimes des conflits armés, se félicite d'avoir soutenu ses premiers championnats nationaux de basketball en fauteuil roulant. James est le délégué communication CICR au Nord Kivu.
Le soutien qu'on a fait, c'était partie de notre programme de réhabilitation physique qu'on a eu depuis 12 ans ici en RDC. On a appuyé 6600 patients dans ces 12 ans avec des différents aides pour la mobilité, pour l'inclusion sociale. Et ces championnats font partie de ça. L'ambiance dans le terrain ici qui est derrière nous, c'était vraiment incroyable.
À marge de cette journée dédiée aux personnes vivant avec handicap, différentes associations regroupant cette catégorie de personnes ont profité pour plaider en faveur de la promulgation d'une convention sur les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.